Maintenant que cette partie est faite, et c'était la plus complexe en fait, parce que du verset 13 au verset 14 que nous allons parcourir, Dieu libère vraiment Dieu proclame des bénédictions sur nos vies. Il fait part des promesses fermes, irrévocables, sur nos vies, sur la vie de celui ou celle qui rentre en partenariat avec lui pour accomplir ses desseins. De celui qui obéit à ses instructions, qui élargit l'espace de sa tente, qui allonge ses cordages et qui affermit ses pieux. C'est pour ces personnes-là que l'Éternel a déroulé Ésaïe 54, de selon la révélation qu'il m'en a faite. Et qu'aujourd'hui, il clôture en proclamant ses bénédictions sur ces personnes dans l'accomplissement des desseins. Parcourons un peu ça. Nous disons qu'en lisant Ésaïe 54, de son verset 13 au verset 17, nous voyons qu'il se dégage une notion de privilège et de faveur, une garantie d'affermissement dans la mission, un transfert d'autorité et de pouvoir, et une notion de service et d'héritage. Commençons un peu par la fin. La notion de service et d'héritage. L'Éternel, après avoir parlé, dit ceci, conclut son propos de cette façon. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Waouh! Telle est la part, telle est la récompense, telle est la portion que je réserve aux serviteurs de l'Éternel. L'héritage de ceux qui s'engagent au service de Dieu. L'héritage de ceux qui rentrent dans un partenariat d'accomplissement avec l'Éternel. Les privilèges qu'il accorde à celui qui le sert. Alléluia. Donc quand l'Éternel dit quelque chose comme ça, quand l'Éternel parle d'héritage, il dit tel est l'héritage des serviteurs. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce à dire que ceux qui étaient donc dans le service, à l'instar de Zorobabel ou de Josué, avec Dieu, ne rentraient plus dans l'héritage d'Abraham, puisque tout le peuple de Dieu était porté par l'héritage d'Abraham et la promesse faite à Abraham pour la postérité? Est-ce à dire qu'ils n'étaient plus dans l'héritage? Ou est-ce à dire qu'ils ne rentraient plus dans les bénédictions de leur tribu, de différents? Non. Ça veut dire simplement que cet héritage dont l'Éternel parle là vient en plus de l'héritage général qui était disposé pour tout le monde, dont l'Éternel prévoit quelque chose de supplémentaire pour ceux qui le servent. Il y a des bénédictions générales qui sont libérées pour tout le monde et des grâces particulières que l'Éternel réserve à ceux qui veulent aller plus loin avec lui. C'est une vérité, il faut le prendre comme ça. C'est valable dans l'Ancien Testament, c'est valable dans le Nouveau. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, est mort à la croix et par ce fait, il a ouvert la porte des brebis pour nous. Et nous a reconnecté, tous ceux qui suivent Jésus-Christ, il nous a reconnecté à la bénédiction d'Abraham. Ça, c'est une chose. Il nous a connecté à son héritage. Ça, c'est une autre chose. Mais l'Éternel, Dieu aussi, parle de grâce supplémentaire. Qui monte à la brèche, parle de grâce supplémentaire pour ceux qui veulent, pour ceux qui le cherchent et pour l'accomplissement de leur dessein, de ses desseins. Notre Seigneur Jésus nous dit, suis-moi, je te conduis au Père. Ceux qui ont suivi dans mon site le message itinéraire des vrais adorateurs peuvent comprendre de quoi je leur parle, parce que je traite de ce sujet là-dedans. Il y a ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu et qui restent dans la cour et qui jamais ne font un effort d'aller plus loin. C'est une image que je montre, comme une grande cour comme si le royaume était un grand château, un grand palais. Il y a une très grande cour où se déroulent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de festivités, il y a beaucoup de choses à manger, des victoires, etc. Mais il y a le palais lui-même, les premiers étages et les appartements de Dieu bien plus loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir rencontrer l'Éternel pour grimper tous ces niveaux et atteindre. Mais ce n'est pas interdit. Une fois qu'on est dans le royaume, c'est ouvert, c'est libre. Celui qui veut vraiment grimper n'a qu'à s'investir pour l'effort de la connaissance de la parole, pour le chercher. Il dit, celui qui me cherche sincèrement, je me laisse trouver. Et il nous dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Donc ceux qui veulent vraiment entrer dans la connaissance du Père, chercher la face du Seigneur, ont ce désir, ont cette soif d'être vraiment dans le partenariat de l'Éternel. Parce que figurez-vous que ce n'est pas tout. Jésus-Christ est venu mourir à la croix du calvaire pour commencer quelque chose. Si certains fonctionnent avec Christ comme si c'était la fin, mais non, c'est le commencement. Jésus-Christ est venu annoncer, établir le royaume de Dieu. Mais quand il a commencé à établir le royaume de Dieu était, ce royaume de Dieu sur la terre était vide. Les premiers qui ont peuplé le royaume de Dieu sur cette terre, c'était les apôtres. Et dès lors, ce royaume doit se grandir, se remplir, ce royaume doit grandir. Mais ce n'est pas tout, parce que c'était un des desseins de Père, dont notre Seigneur Jésus est à la conduite. Et si nous n'avons rien à faire de particulier, Jésus-Christ ne nous aurait pas préparé, délivré, libéré et même fait envoyer le Saint-Esprit juste pour que nous glandions. Il nous a libérés afin que nous nous associons à lui pour le plan qui nourrit le cœur de Père. Notre Dieu est là, il dit vraiment, moi je vous attends afin que vous accomplissiez mes desseins. J'ai un plan que je veux assouvir depuis le commencement et depuis l'Ancien Testament. Ça préoccupe le cœur du Père qui monte à la brèche. J'ai envie de faire des choses, mais j'ai besoin de passer par des gens. Qu'est-ce que je fais? Beaucoup veulent aller en mission, beaucoup veulent rentrer dans l'accomplissement sans aller faire un tour vers le Père. Ils vont recevoir la grâce de qui? Pour l'accomplissement qu'ils veulent. Donc ce qui fait que beaucoup de gens rentrent dans l'accomplissement, rentrent dans les œuvres et autres, sans revêtement, sans onction véritable, sans libération de provision, sans tout ce processus que nous venons de voir en étudiant l'histoire de Zorobabel et de Josué. Et on s'étonne que ça peut donner n'importe quoi. Nous avons besoin de la grâce. Grâce, grâce pour cet accomplissement. Et ça vient de Dieu. Ça vient de l'Éternel, lui-même. Parce que nous sommes sauvés, délivrés par la grâce de Jésus-Christ. Quand nous disons que nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de la grâce de qui? C'est la dispensation de la grâce que Dieu a libérée sur Jésus-Christ pour nous délivrer. Et avec ça, nous avons le salut. Avec ça, nous sommes délivrés. Avec ça, nous sommes enfants de Dieu et tout. Mais pour accomplir, nous devons suivre le chemin que le Seigneur Jésus nous montre et aller non seulement en obtenant notre appel, notre mission auprès de l'Éternel, recevoir la grâce qui va avec, l'onction qui va avec. Alléluia. Cette onction-là ne se reçoit pas avec la délivrance à la croix. Non. Nous devons aspirer, vivre quelque chose de différent avec l'Éternel. Jésus-Christ, dans Jean, livre de Jean 15, versets 9 à 17, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et notre Seigneur Jésus parle de la notion d'amitié. Il parle à ses apôtres et il annonce un autre niveau de communion qu'il veut avoir avec ses apôtres. Lisons. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Oui, tu te dis, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ok, notre Seigneur Jésus nous parle d'amour, il campe le terrain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Écoutez ce que le Seigneur. C'est Jésus qui dit maintenant aux apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il poursuit dans le verset 15, et c'est ça qui nous intéresse. Je ne vous appelle plus serviteur. Alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc le degré de complicité, le degré de communion, le degré d'ouverture, le degré de partage, de crédit, de confidence qu'il y a entre les amis, c'est même pas ce même degré qu'il y a entre un simple serviteur et son maître. Mais Dieu dit même déjà comment il peut bénir le serviteur, qu'il garde un héritage. Combien de fois un ami, combien de fois un serviteur qui a cherché à rentrer dans la communion du maître, qui a cherché à connaître le Père jusqu'à Père, rentrer dans la confidence de Père, dans un cœur à cœur avec les... Ça doit être ce qui doit nous animer. Passer même l'étape de l'ami pour être fils, pas seulement héritier. Un enfant qui est à la maison, lui se contente seulement de chercher l'héritage, de manger l'héritage. J'ai ceci, j'ai cela. On en voit beaucoup même dans le monde. Il ne se préoccupe jamais de quel état, dans quel état d'esprit est le cœur du Père. Il ne se préoccupe jamais de ce qu'il désire. La parole de Dieu dit, faites de moi vos délices, je vous donnerai ce que votre cœur désire. Mais le Père aussi a besoin d'être nos délices. Il a besoin qu'on se préoccupe de l'état de son cœur. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, est-ce qu'il y avait une mission particulière pour laquelle je suis dans ce monde? Père éternel, je veux vraiment accomplir avec toi. Me voici, ô Dieu de gloire. Mais aujourd'hui, dans le corps du Christ, beaucoup de se contenter d'être des enfants. Parce qu'ils ont confessé Christ, tout simplement. Oui, ils sont sauvés, ils sont dans le royaume des cieux. Mais pour quelle utilité? Ça ne les met même pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Il y a un héritage pour ceux qui font le service, un héritage particulier pour ceux qui sont dans le service. Passons en revue ce que l'Éternel dit à celui qui rentre dans son service, à celui qui veut rentrer à ce niveau d'ami, à ce niveau de fils et qui veut accomplir les desseins de Dieu. Regardons ce que l'Éternel dit. La notion de privilège et de faveur. Dieu dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Moi, on me donne un verset comme ça. Je dis gloire à Dieu. Je danse déjà. Parce que Dieu est en train toujours de parler de la notion d'héritage. Parce que vous savez, dans le plan de Dieu, c'est une question de transmission. Il dit que les parents transmettent l'héritage à leurs enfants. Ça, c'est une chose. Mais quand il te garantit une prospérité pour tes enfants, une prospérité pour tes fils, parce que quand Dieu parle des fils, c'est pas que des fils naturels, c'est les fils naturels, mais les fils spirituels aussi. C'est-à-dire tout ce que tu enfants, tout ce que tu fabriques, tout ce que tu amènes à croître sont tes fils. Ça peut même être une œuvre simplement et tout. Il garantit une prospérité pour tout ce que tu enfantes. Alléluia. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Quel est le bonheur d'un parent Qu'est-ce qui peut encore faire plus plaisir à un parent que le bonheur de ses enfants? Ce qui est particulier, c'est que ça s'attache à la bénédiction d'Abraham. Figurez-vous que nous tous là, je dirais que nous sommes attachés à la bénédiction en Abraham. Abraham a obéi à l'Éternel. Ça lui a été imputé à justice. Et Dieu lui a fait une promesse. La promesse de richesse du monde. Il lui a fait une promesse. Mais cette promesse, qui est le bénéficiaire de la promesse faite en Abraham? C'est sa postérité. Mais est-ce que Abraham manquait de quelque chose? Puisqu'il était détenteur de ça entre les mains. Tu ne peux pas prendre quelque chose en main et ensuite, tu manges. Il ne manquait rien à Abraham. Et en plus, il détenait tout pour sa postérité. C'est de la même façon. Quand Dieu te promet, te parle de tes fils, on doit être heureux. Gloire, gloire à Dieu, papa. Je te servirai au Père éternel. Me voici, ô Dieu de gloire. Utilise-moi. Que mes fils soient tes disciples. Et que grande soit leur postérité. Alléluia. Je possède. Je prends avec joie ce privilège et cette faveur exceptionnelle que Dieu m'accorde. En tant que servante de l'Éternel. En tant que fils. En tant que disciple de Jésus. En tant que partenaire avec lui. Alléluia. Dans l'émission à Christ héritage du royaume. Glorie, glorie, glorie. Deuxième déclaration de l'Éternel. Il donne une garantie d'affermissement. Il dit, tu seras affermi par la justice. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de peut-être. Dieu déclare que la personne qui fonctionne avec lui, qui rentre avec lui dans un partenariat divin, est affermi par sa justice. Est affermi par la justice. Dieu est un Dieu d'équité et de justice. C'est un affermissement. Ça veut dire que tu rentres dans une dimension de légalité, de tu es en règle avec la justice de Dieu. Et ta justice marche devant toi, ça te précède. Quand on dit que tu es affermi dans quelque chose, il y a l'assurance que tu as. Il y a la foi que tu as. Il y a le positionnement que tu tiens. Tu tiens ferme dans tes postes d'estémie. Tu avances avec fermeté. Tu ne chancelles pas. Dieu dit, ça sera ton lot. C'est le lot de ceux qui marchent avec moi. Alléluia. Il poursuit en disant, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Dans tout ce que je te demande de faire avec moi, n'aie crainte de rien. Qu'aucune situation ne t'effraie. Garde confiance. Sois rempli d'assurance. Que rien ne te fasse peur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tes yeux voient dans la réalité, ne sois pas inquiète. Avance. Ma justice veille. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Ne t'effraie de rien. Elle ne s'approchera même pas de ta tente. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour la protection. Merci Seigneur pour l'affermissement que tu me donnes. Merci pour ta couverture au Père éternel. Merci pour ta justice, ma justice que tu fais prévaloir au nom puissant de Jésus. Glorie, glorie, glorie. Merci au Père. Et le troisième, le quatrième, c'est la délégation d'autorité et de pouvoir. L'Éternel le disait déjà dans l'Ancien Testament. Mais notre Seigneur Jésus nous dit, en son nom, nous avons plein pouvoir. En son nom, nous avons pouvoir de faire beaucoup de choses. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ferez. Car le nom de Jésus-Christ est le nom qui est le plus élevé. Je dis, gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui est importante. C'est encore rentrer dans la dimension d'être à mesure d'exercer ce pouvoir. Parce que je dis toujours que ce que Jésus-Christ a libéré à la croix, c'est une disponibilité. C'est disponible. Mais ce n'est pas parce que c'est disponible que c'est forcément utilisable. Encore faut-il vouloir utiliser cela, exploiter cela, exercer cela. Et encore faut-il pouvoir être en mesure de le faire. Ce que Jésus-Christ a libéré à la croix du calvaire, le salut est disponible, mais tout le monde ne le prend. Il est plein de tellement de choses. Il y a tellement de choses dedans que nous n'exploitons même pas, mais que nous devons le faire. Dieu ici garantit une chose pour ceux qui viennent à lui. Dieu dit pour ceux qui sont dans mon service, pour les personnes qui sont engagées dans un service avec moi, dans un accomplissement, Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est une garantie particulière. Ça veut dire que quand tu es dans le processus avec Dieu, ne t'interroge pas, ne te pose pas des questions. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on dit, ah, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que telle chose, ce n'est pas Dieu? Peut-être que, bon, Dieu n'était pas tout à fait. Peut-être que. Et on se laisse enliser comme ça, prendre au piège de l'ennemi. Parce qu'il veut nous aveugler et puis. Dieu te dit d'entrer de jeu. Si l'on forme des complots, si dans ce que tu es en train de faire, tu te rends compte qu'il y a des complots qui se façonnent, sache une chose, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Donc, rapidement, sache que c'est de l'ennemi. Et prends position pour te défendre. Il ajoute, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Waouh. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est une puissance importante que le Seigneur donne. Mais je vais vous inviter à regarder quelque chose. Dieu n'a pas dit que quiconque se liguera contre toi, moi je vais le frapper. Dieu n'a pas dit ça. Quiconque se liguera contre toi sera tué, renversé et tout, comme j'entends souvent cette. Dieu te donne un pouvoir. Dieu te délègue certaines capacités, certaines autorités. Et il te dit, utilise cette autorité. Utilise ce pouvoir que je te donne, que je te lis. Donc quand une situation arrive et que quelqu'un se ligue vraiment contre toi, tu as une adversité vraiment. Ne fais pas les prières style, oh Dieu, voilà, la situation me menace, viens à mon secours, protège-moi. Ah, Dieu t'a dit qu'il t'a donné, qu'il l'a fait tomber sous ton pouvoir. Pourquoi tu viens encore pleurnicher devant moi? Exerce ton pouvoir. Mais de quel pouvoir il s'agit? Parce que si tu sais reconnaître tes droits, analyser les situations et te lever conformément à la parole de Dieu pour dire la vérité de la parole, la personne qui est en face et se ligue perdra cette bataille de vérité. Parce que Dieu te dit que il va le faire tomber sous ton pouvoir. C'est-à-dire que la confrontation que vous allez mener, tu vas l'emporter. Voilà la garantie que Dieu te donne. Mais encore faut-il aller à la confrontation et dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que vous savez que l'arme de bataille avec Dieu, c'est l'épée de la vérité et de la parole. Nous sommes ici dans des missions spirituelles. Donc ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Donc, nous-mêmes dans l'exercice de nos missions, dans l'exercice de notre appel, nous devons nous enrichir chaque jour de la parole de Dieu pour que dans tel ou tel axe, nous soyons aptes à utiliser la vérité de la parole de Dieu pour faire valoir notre point de vue, pour faire valoir ce que nous faisons. Dieu nous garantit que dans une confrontation de vérité, de parole, celui qui nous confronte tombera sur notre pouvoir. Alléluia. Donc nous devons nous regaillardir dans la marche avec l'Éternel, même dans l'adversité, pour savoir que Dieu a déjà libéré ces choses pour moi. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh my God. Glory, 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 glory. Oh my God. Gloire, gloire, gloire te soit donnée. Ça, c'est une véritable grâce. C'est une véritable traité. Parce que nous pouvons marcher comme ça et ne pas toujours être alerte, affûté et tout, dans tout ce que l'ennemi prépare. Quand nous lisons la Bible, nous voyons les différentes façons dont l'ennemi peut attaquer. Mais il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aïe. Sans effet. Ça veut dire que tu peux dormir tranquille, mon frère, ma soeur. Quand tu marches dans le processus de Dieu, tu peux dormir tranquille. Certaines armes là, bizarres. Tu peux te coucher tranquille. Ceux qui passent leur temps à aller farfouiller les choses dans les ténèbres là, font des flèches, des contagions à midi, le soir, tout ça. Dieu te dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et Luc 10, 19 nous dit dans le Nouveau Testament, en Christ que nous sommes, parce que ça se rattache à ça, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Quand tu as travaillé, médité ce verset, compris, appris à connaître le plan de l'ennemi, tu marches avec ferme assurance de posséder ce verset. Pouvons savoir en passant que quand on fait allusion au serpent, ce sont les armes qui touchent notre psychique, nos pensées, notre mental, notre intelligence, notre mémoire. Ce sont des armes qui touchent la sphère psychique. Mais quand on parle de scorpion, il mord par le venin. Ça touche tout ce qui empoisonne notre corps, tout ce qui détruit le corporel, les maladies, les infirmités et tout ça. C'est ces deux images, serpent et scorpion. Et toute autre puissance, dont toutes les autres formes de nuisance de l'ennemi. Et la parole nous dit, et rien ne pourra. Alléluia. Je marche dans cette affirmation, je marche dans cette vérité et je possède et je prends vraiment pleinement. L'Éternel m'accorde ce privilège de pouvoir et d'autorité qu'il me donne. Alléluia. Vous savez, il ne s'agit pas d'être les proclameurs de versets. Mais il me semble qu'il est fondamental que celui qui est dans l'exercice du partenariat avec l'Éternel en Jésus-Christ soit conscient, véritablement conscient du pouvoir qui est le sien. Il faut qu'il réalise vraiment qu'il a une réelle autorité qui lui a été déléguée, que ce soit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dans les situations de conflit, d'opposition, dans toute forme de confrontation ou d'attaque, qu'il se lève et qu'il prenne vraiment cette autorité-là et exerce ce pouvoir. Ça fait appel à des nuances de prière. Ça fait appel à la façon même de réagir quand on se trouve dans l'adversité. Et le dernier, et pas les moindres, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. C'est-à-dire que toute parole d'accusation, parce qu'on dit que toute langue qui se lève en justice, l'Éternel Dieu notre Père est assis sur son trône de justice. Le royaume de Dieu est bâti sur un système de gouvernance basé sur un trône de justice et d'équité. On nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il nous sert d'avocat. Il plaide pour nous. Il plaide pour ceux qui se rapprochent de Dieu. Tandis que de l'autre côté, il y a un accusateur qui fait qu'accuser. Donc nous sommes devant une situation de justice. L'Éternel dit que les langues qui vont se lever en justice contre toi. Il te donne l'autorité. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les paroles d'accusation, de libation, de malédiction, d'incantation, de médisance qui sont dites contre toi et l'œuvre que tu es en train d'accomplir, tu as le pouvoir de condamner cela. Parce que nous sommes devant un trône de tribunal. Donc toute parole d'accusation et autre, ce sont des accusations qui sont levées contre toi. Ce que Dieu nous dit ici, il ne dit pas qu'il va les condamner, lui, qui est juge. Il ne dit pas que on va voir ça avec les anges pour condamner. Non. Il te dit à toi, il te me dit à moi, condamne-les. C'est un privilège inouï, vous ne pouvez pas imaginer. Mais qu'est-ce que ça signifie condamner? Nous savons avec Jésus qu'on dit, on n'est pas dans la condamnation, ce n'est même pas notre rôle d'être juge. Ou encore dans la condamnation juste comme ça. D'aucuns diraient peut-être que le terme condamnation dans le Nouveau Testament est particulier. Non, même dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on dit qu'on condamne quelque chose, n'oublions pas qu'on ne parle pas de personne ici. On a dit toute langue. Il s'agit de la langue qui contraint. On n'a pas dit d'aller condamner la personne qui a la langue, qui t'accuse ou qui s'élève contre toi. Condamne la langue. Et quand on parle de condamnation, on condamne toujours à quelque chose. La condamnation, c'est une sentence. C'est une sentence que l'on donne. Dieu dit que quand une langue, toute langue qui s'élève contre toi, formule une sentence contre toi. Il s'agit pour nous, serviteurs de l'Éternel, il s'agit pour ceux qui sont dans le marche, en ce qui concerne la mission qui t'est donnée, de formuler des sentences adéquates contre toute langue. Et les sentences doivent être en corrélation avec le type de parole qu'elle a proféré. Supposons qu'on a, vous avez affaire à quelqu'un qui est très accusateur ou qui profère beaucoup de malédictions. Moi, je dirais, je condamne au mutisme. La parole de Dieu me dit que l'Éternel Dieu impose le silence à ses adversaires. Tu peux condamner au mutisme une langue pendant un temps. Tu peux condamner une langue à se taire pendant la durée d'une réunion, pendant la saison de préparation de quelque chose. Si au cours, dans une assemblée, par exemple, on a remarqué qu'il y a des personnes qui sont mégères, médisantes, et qui, avec leur langue, sèment des dégâts, des troubles, des problèmes entre les gens. Si tu as autorité, si c'est de ta responsabilité, tu peux avoir autorité pour condamner cette langue à se dédire, à s'excuser, à demander pardon, ou même à s'exposer soi-même. Et il y a des personnes, il se passe quelque chose, mais la personne se dissimule, ne veut pas faire semblant. Tu condamnes cette langue à s'exposer, elle va finir par elle-même parler. Cette personne va finir par elle-même avouer que c'était moi. C'est le pouvoir que le Seigneur donne là. Tu peux condamner une langue à la confusion. Quand il commence à vouloir parler, même il tape la bouche, ça ne sort pas. Moi, j'ai une forme de condamnation des langues là. Les gens qui ont une langue tellement mégère, qui maudissent beaucoup, qui ne disent jamais de bonnes paroles. Je condamne leur langue aux paroles de bénédiction. Je dis, chaque fois que tu ouvriras la bouche, c'est pour sortir une parole de bénédiction au nom de Jésus. Cette personne va commencer à bénir les gens, il ne va même pas comprendre. Ça dit, sa tête pense. Mais quand elle ouvre la bouche pour parler, elle est en train de bénir. C'est le pouvoir que le Seigneur donne. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, condamne-la. Je possède, je prends cette autorité. Et Saint-Esprit de Dieu, inspire-moi des sentences. Inspire-moi des sentences en fonction des situations au nom de Jésus. Des sentences contre les langues. Toute langue qui s'élèvera contre moi. et le ministère que le Seigneur me donne d'accomplir au nom de Dieu. Tu peux avoir un dossier que tu as introduit quelque part. Tu attends une signature de l'autre. Mais une bouche se lève là pour aller essayer de dire là où on doit signer ton dossier. Que non, on ne doit pas signer ce dossier. Oh, quand tu introduis ton dossier, condamne toute langue négative au mutisme en ce qui concerne ton dossier. Mes bien-aimés, vraiment, je veux vous exhorter à ne pas rester enfant dans le royaume de Dieu. Je veux vous exhorter à aspirer à être vraiment à l'instar de notre Seigneur et Maître Jésus, à être des fils très intéressés, très préoccupés par ce qui préoccupe le cœur du Père. Acceptez de grandir, acceptez de passer à un autre niveau, acceptez de marcher dans l'appel qui peut être le vôtre. Si vous n'avez pas encore une visibilité de l'appel, quêtez, demandez. Demandez au Saint-Esprit de vous assister. Demandez de vous éclairer sur cela. Faites des prières de supplication au Père pour avoir la révélation de votre appel. Parce que vous voulez marcher dans cette... Vous voulez servir ses desseins. Oh Père, au terme de cette étude, Papa, et en cette saison particulière où tu me fais rentrer dans une phase d'occupation de mon terreau, Père, dans ma marche d'accomplissement avec toi, dans le cadre des missions en Christ et de tous ces aspects de déploiement, je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci, Seigneur, pour ce message d'Ésaïe 54 que tu m'as donné, qui nourrit mon ministère. Merci, Saint-Esprit, parce que tu m'as aidé à répondre à un élément fondamental de mon appel, qui est de partager mon pain avec ceux qui ont faim. Merci pour tous ces messages. Je prie vraiment pour que ça puisse aider pleinement d'autres personnes à grandir dans leur marche avec toi. Merci pour la grâce de l'accomplissement que tu m'accordes. Merci vraiment, Père éternel, pour la grâce comme faveur, le privilège de l'élection. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi. Merci, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, de m'avoir appelé à ton partenariat. Merci, ô Père. Notre Seigneur Jésus nous dit dans Jean 15, 16 à 17, pour continuer la lecture de tout à l'heure. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit-il à ses apôtres, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Papa, je dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'établissement. Merci pour l'occupation. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Je te rends grâce. Tu es si merveilleux, tu es si bon. Merci pour la sélection. Merci pour l'établissement. Merci, merci, merci. Merci de me faire porter du fruit. Merci pour la grâce, la plénitude de ton esprit, du Saint-Esprit agissant dans ma vie. Je veux porter du fruit. Merci pour la pérennité que tu... Alléluia. Merci pour cette grâce de demander au Père en ton nom et de recevoir au nom de Dieu. Merci pour ta marque de distinction, pour mon appartenance, Seigneur, à ton royaume. Merci pour ta marque, ô Jésus-Christ. Merci pour la brillance que tu accordes. Merci pour ta lumière qui illumine. Merci pour les portes d'escarbot. Merci pour l'attirance que tu me donnes, pour attirer à moi les faveurs et les privilèges tout le long de l'exercice de mon ministère. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, de trouver grâce aux yeux de tous ceux qui me voient. Je te dis merci d'avance pour tous ceux qui consentiront avec plaisir de contribuer en ce qui les concerne et avec ce qu'ils possèdent, leurs moyens, leur autorité, à la réussite de l'œuvre que tu m'as confiée, à la réussite des missions en Christ, héritage du royaume. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, je te rends grâce pour tout cela. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Que ton règne vienne, Père. que ta volonté soit faite sur toute la terre, comme dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom.